Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Bonjour, je vais rebondir sur les derniers propos de Monsieur Simon. On peut avoir réussi, on va dire, scolairement, professionnellement, mais on a toujours quelque chose à prouver. On a toujours besoin de faire plus pour avoir finalement la même chose que le white. Alors moi, je me définis, je me lève pas le matin en me disant « Ah, je suis de couleur mat », on me le rappelle. Donc moi, ce que je voudrais... là, actuellement, j'ai repris mes études, je fais un master sur le genre, et ce que je trouve vraiment intelligent, c'est d'intervenir dès le plus jeune âge. C'est-à-dire quand on fait des sensibilisations chez des petits garçons, des petites filles, là, ça fait son petit chemin, et ça permet de construire, je dirais, certains schémas de pensée qui peut être ensuite un peu décalé de celui qu'on entend à table dans certaines familles. Donc là, effectivement, on est loin, loin, loin sur les questions d'intersectionnalité, sur la mobilisation de moyens, de volonté politique et autres. Donc pour avoir vécu dans d'autres pays et être revenu en France, je vois vraiment le décalage et les difficultés qui sont au quotidien. Moi, je peux encore, et il m'est arrivé d'être suivi par des personnes de la sécurité dans des magasins. On m'a refusé l'entrée dans un bar. Voilà, moi, j'estime qu'à 50 ans, j'ai plus rien à prouver, mais voilà, ce sont des situations auxquelles on est confronté au quotidien et qui nous incitent à nous dire « Bon, on va se barrer de là, en fait. » Les choses n'avancent pas en France. Donc, je suis assez pessimiste, j'avoue. Désolée.
Oui. Non, mais je trouve que la comparaison internationale est parfois intéressante parce que nous, dans nos différents domaines de compétences, on est en lien avec nos homologues en Europe et puis aussi au Québec, parce qu'il y a une proximité de langue, mais aussi aux États-Unis. Et je partage votre analyse. Je trouve que dans les pays anglo-saxons, je pense au Québec aussi, on avance plus sur ces questions-là. Je partage tout à fait l'avis de Patrick Simon sur la question origine. Moi, je trouve, je mets des bémols, qu'il y a des avancées sur les inégalités femmes-hommes, sur la question de la discrimination handicap. On en voit encore. Enfin, nous, on voit des discriminations grossesses. On voit une femme qui dénonce un harcèlement sexuel, qui est licenciée pour dénonciation calomnieuse. Enfin, donc, j'en vois encore. Mais je trouve que celle origine, on a vraiment particulièrement du mal. Et oui, il y a des pays qui avancent plus vite que nous, qui reconnaissent l'existence de ces discriminations. Je trouve qu'on a plus de mal en France. Je pense, j'y vois une des explications dans notre volonté d'universalisme et d'égalité. En fait, comme c'est mis sur le fronton de nos mairies, on pense qu'on y est. Ben non, c'est un objectif et on n'y est pas. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais je partage tout à fait votre point de vue.
Bonjour. Moi, je voulais connaître votre avis sur les statistiques ethniques. Et est-ce que pour vous, ça pourrait vous permettre de réellement mieux quantifier les discriminations liées aux origines? Merci.
Moi, ça va m'intéresser d'entendre ce que va répondre Patrick Simon. Mais je pense, en fait, qu'on peut faire déjà beaucoup de choses sur la question du perçu comme non-blanc ou perçu comme noir et arabe. Et moi, en tout cas, d'où je suis pas sûre qu'on a besoin de rentrer dans cette polémique pour avancer sur cette question-là. Et qui est un sujet éminemment polémique en France. Et que donc, en fait, dans les enquêtes qu'on mène, le perçu comme non-blanc ou perçu comme noir ou arabe, finalement, nous permet d'aller assez loin dans les enquêtes qu'on mène. Qu'est-ce que répond...
Je pense qu'effectivement, on peut faire des enquêtes. Les politiques de lutte contre les discriminations, ce n'est pas que des enquêtes. C'est-à-dire que c'est des fichiers administratifs, c'est des fichiers du personnel, c'est des choses comme ça. Et donc là, si on veut voir quelles sont les différences, par exemple, de recrutement entre les candidats qui se présentent à un poste et ceux et celles qui sont sélectionnés, il y a toute une ingénierie dans laquelle les statistiques ethniques jouent un rôle important. C'est un saut qualitatif énorme du point de vue de ce qui se pratique aujourd'hui. Donc la première phase, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on a envie de rentrer dans ce genre de dynamique et est-ce que les personnes sont prêtes à s'auto-déclarer à partir de caractéristiques ethno-raciales et ensuite comment ça se met en place. Mais ça, c'est vraiment, quand j'ai dit c'est un débat de société, c'est vraiment un débat de société, mais il faut qu'à un moment on arrive à l'avoir. Je ne sais pas comment la Grande-Bretagne a fait, mais ils l'ont fait. Je veux dire par là qu'ils n'avaient pas d'antériorité d'avoir construit ce type d'appareil statistique Et en 91 et ensuite en 2001, ils ont décidé de le faire pour des politiques de lutte contre les discriminations. Mais bon, la Grande-Bretagne parlait assez directement de questions raciales depuis longtemps. Donc il y a un autre environnement politique, un autre environnement intellectuel. Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, hein, mais en tout cas, en l'occurrence, voilà, c'est ça la réponse. Ouais.
Bonsoir. Donc, je vais un petit peu rejoindre ce qu'ont dit les deux personnes avant moi. Je pense que quand monsieur parlait de la collecte des données ethniques, c'était justement pour faire un point justement de comparaison avec ce qui se passe au Royaume-Uni, par exemple, où on a trois points de comparaison avec la France qui vont être, premièrement, le multiculturalisme et non l'universalisme. Alors moi, quand je dois l'expliquer à des enfants, je leur dis souvent que, ben, en France, l'universalisme, ça consiste à tous ressembler à une bouteille de Perrier. Tandis que dans d'autres pays, et il faut dire la vérité, on va avoir une approche d'acceptation des différences. Et je vous dis ça parce que j'ai passé les 7 dernières années à l'île de la Réunion, et je m'étonne qu'en France, on ait un DOM qui soit un laboratoire du savoir-vivre ensemble, et qu'on n'arrive pas à en tirer des bénéfices pour pouvoir vivre ensemble en France. Donc c'est vrai qu'il y a un problème en France, et on s'en rend compte quand on va à l'étranger. Maintenant, bon nombre des questions qui ont été abordées ici, en fait, ce qui me dérange, c'est qu'on ne va pas à la source de la discrimination, à savoir pourquoi il y a de la discrimination en France. Donc, on a parlé du manque de la problématique des personnes qui portent pas plainte, par exemple, ou des discriminations qui sont liées à la religion. Et moi, je voudrais juste demander, là, vu que c'est la première fois que je vais pouvoir parler à autant de personnes, en même temps, et vous demander, s'il vous plaît, qui a eu connaissance, a lu ou a appris à l'école ce qu'était le code de l'indigénat. En levant la main, s'il vous plaît.
À l'école. On sait ce que c'est, mais pas à l'école. Vous l'avez
appris. À l'école. Okay. C'est pour ça. Je pose cette question parce que justement, il existe des solutions en France qui vont permettre que dans 20 ans, on ne se retrouve pas à la même table à parler de la même problématique. Donc, si vous savez qu'il y a il a existé, en tout cas en France, un code noir, il a existé également un code de l'indigénat. Donc, n'allez pas sur Google pour le chercher, vous ne le trouverez pas. Par contre, vous allez pouvoir trouver des reportages dessus. Pourquoi je vous dis ça? Donc, c'est parce que ça a été un texte juridique qu'a utilisé la France à partir du moment où elle est rentrée dans les pays qu'elle a colonisés, qui a dû normalement être arrêté en 1946 et qui a perduré jusqu'au moment des décolonisations, qui va donner les droits et les obligations des sujets colonisés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les personnes, je n'aime pas du tout le terme de racisés, hein, mais les personnes qui sont issues des minorités, on porte en eux un sac générationnel qui en fait inclut le fait que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents étaient régis par des droits et des non-droits. Notamment le fait que dans ce traité, par exemple, juste pour aborder la question rapidement, pourquoi les gens portent pas plainte et pourquoi il y a beaucoup de contrôle au faciès? Eh bien, il faut savoir que pendant 130 ans, n'importe quelle autorité qui n'était pas algérienne, indochinoise, sénégalaise, pouvait à n'importe quel moment, même en dehors du cadre de ses fonctions, vous arrêter ou vous taxer de personnes qui méritent une sanction. Et cette sanction était appliquée sans avoir à passer devant un tribunal, ni même devant un juré. Moi, ce que je me demande, parce que j'ai des enfants qui sont à l'université, c'est pourquoi tout au long du cursus scolaire, on n'explique pas aux gens ce qu'est le code de l'indigénat. Ça leur pourrait leur permettre de comprendre que la France est devenue multiculturelle. Et pourquoi les gens ne doivent pas avoir un regard différent sur ces personnes-là? En fait, c'est simplement d'expliquer aux gens qu'on est différent. Et à l'image de ce qu'on fait, par exemple, à l'île de la Réunion, dès l'école maternelle ou l'école primaire, c'est de leur expliquer les gens sont différents, il y a telle différence sur les gens, et c'est pour ça qu'on en arrive là. Et surtout de pas faire l'amalgame, c'est-à-dire d'expliquer des choses à des descendants d'immigrés et ne pas l'expliquer à des gens qui sont français de souche, parce qu'on est tous français, on peut tous nous expliquer la même chose, on va tous comprendre, parce qu'on a tous finalement envie de vivre ensemble. Donc, je pense que ça, une modification dans le programme scolaire d'histoire pourrait permettre aux générations futures de vivre ensemble plus sereinement, parce que pour s'aimer, il faut se connaître.
Moi, je vais juste une petite réaction. Alors, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais apporter une autre expérience avec l'association. Nous aussi, avec les jeunes, on s'est demandé pourquoi les Tziganes étaient autant discriminés en France et en Europe. Et on s'est dit, on va aller puiser dans les archives et dans le passé. Connaître le passé pour comprendre le présent et agir sur l'avenir, c'est un peu le leitmotiv de ce projet. Et effectivement, les jeunes ont compris l'importance de connaître ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Pourquoi l'antitiganisme, c'est un ensemble de pratiques institutionnelles et institutionnalisées. C'est comme ça que la DILCRA l'a défini. Et donc, c'est vrai que c'est important et on, comme vous, on milite, alors pas sur le même sujet, mais ça rejoint sur l'importance de connaître cette histoire-là pour demain mieux la transmettre et voilà, et agir sur l'avenir. Donc, c'est vrai que c'est capital. Et on revient toujours sur le même sujet, l'école est un endroit clé. Voilà.
Bonsoir. Moi, c'est juste un petit témoignage que j'ai envie de vous faire part. Il y a 30 ans exactement, j'étais sur les bancs de cette université pour des études en sociologie, je n'ai pas continué. Mais à cette époque-là, j'avais participé à une recherche autour d'anthropologues et sociologues qui étaient venus justement dans les quartiers nous donner un champ d'expression, nous tendre le micro, nous donner la parole pour qu'on puisse réfléchir donc autour des problèmes de discrimination. Et là, je me retrouve 30 ans après et à la fois j'ai vu des évolutions et à la fois il y a des choses qui n'ont pas du tout bougé. Et dans les évolutions, juste pour vous dire quelques exemples, à l'époque, on avait la chance, via ce travail-là, de rencontrer donc des élus, le sous-préfet, etc. Donc on avait la chance de pouvoir communiquer directement et de donner donc nos impressions à cette époque-là. Et à cette époque-là, nos revendications, c'était de pouvoir rentrer en discothèque. Chose qu'aujourd'hui, la discrimination, et en travaillant dans le milieu de la nuit, elle n'existe quasiment plus. Donc la discrimination en discothèque, à l'époque, c'était impossible de rentrer. Par rapport aux solutions, en fait, il n'y a pas eu de solution miracle. La solution miracle, ça a été l'économie. Donc, en fait, que les gens des quartiers aient eu un peu plus d'argent et un peu plus de place dans l'économie. Et aussi, le fait que les discothèques donc, ne fonctionnaient pas. Donc, du coup, elles ont ouvert la clientèle à tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré en discothèque plus tard. Une de nos autres revendications, c'était pourquoi on ne travaillait pas à McDo. Parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas d'arabes ni de noirs à McDo. Vous voyez un peu l'évolution. Quoi. Donc, aujourd'hui, quand même, il y a une note positive, c'est que dans le milieu du travail, dans le milieu culturel, en discothèque, etc., il y a beaucoup de choses qui ont bougé, et tant mieux. Quand je vois aujourd'hui les jeunes des universités, nous on était une dizaine dans toute l'université du Mirail, aujourd'hui, voilà, il y a vraiment un brassage de population. Et par rapport aux solutions, et c'est aussi avec le recul que j'ai, la solution elle peut être aussi personnelle. C'est aujourd'hui, moi je travaille dans le milieu éducatif et j'ai le témoignage d'élèves, donc des très jeunes élèves qui se plaignent du racisme. Et moi je leur dis, t'as 15 ans, t'as 14 ans, 12, 13 ans, t'as pas été discriminé à l'emploi, t'as pas été discriminé au logement, et comment tu peux avoir des pensifs en fait, donc des arguments comme ça préconstruits. Et en fait, et là j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, on est aujourd'hui, comme le harcèlement d'ailleurs, sur un sentiment de discrimination qui nous atteint en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, est-ce que la réalité elle est pas beaucoup plus positive que ce qu'on imagine? Et finalement, c'est le sentiment de discrimination qui nous crée des souffrances, etc. Et c'est des choses qui m'ont aidé à lutter contre ça, puisqu'aujourd'hui je suis devenu imperméable à toute discrimination, parce que je n'ai même pas envie de la nommer. Aujourd'hui, je me dis, si la personne, j'ai une tête qui ne lui revient pas, je ne vais pas aller directement sur le sujet de la discrimination et du racisme. À un moment, une personne a le droit aussi de ne pas aimer les grands, de ne pas aimer les personnes qui parlent bien, etc. Et le seul point positif que je trouve aujourd'hui, et c'est un gros point, vraiment le gros point négatif, c'est la représentativité des personnes d'origine étrangère dans la politique. Il n'y en a pas. Quand il y en a, c'est les personnes qui se sont... C'est bizarre, c'est la droite qui a ouvert la porte aux minorités visibles. Et du coup, elle les a bien modelées pour en faire leur faire valoir. Et à gauche, on en a pas. Et moi, les témoignages que j'ai des personnes, et moi aussi, j'avais envie au moment de me lancer dans la politique, la machine, elle est tellement bien huilée que nous, il n'y a pas de place. Même pour les personnes qui pensent différemment, il n'y a pas de place. Et donc, du coup, pour nous, il y a encore moins de place. je finis. Et du coup, en fait, moi, le témoignage, ça a été de dire, quand les personnes évoluent et ont une représentativité dans la politique, c'est des personnes malléables. Donc, en fait, des personnes qui ont des idées, des personnes qui veulent lutter contre la discrimination, on ne leur donne pas de pouvoir, tout simplement. Donc, voilà.
Il y avait beaucoup de merci, mais il y avait beaucoup de choses et de propos. Est-ce que vous voulez rebondir sur un ou deux sujets ou... On prend d'autres questions et vous rassemblez peut-être les... Ok. Il y avait vous, mais avant, il y avait une dame que j'avais vue avant.
Bonsoir. Je voulais intervenir sur les appels à projets, notamment qui sont devenus des choses incroyablement délicates, puisque nous avons un État qui pond des lois racistes. Et en face de ça, nous avons par exemple la DILCRA, qui régulièrement, avant le FAS, avant c'était le FAS, qui nous sollicite pour faire donc des projets de lutte contre le racisme et les discriminations. Moi, ça fait personnellement quasiment 30 ans que j'interviens dans les quartiers populaires et partout un peu en France. Je suis intervenante intermittente du spectacle et théâtre, et c'est un outil donc qui permet effectivement de mettre en lumière l'histoire de l'immigration, les transmissions de l'histoire, et de mettre en place des actions interculturelles, intersectionnelles. Sauf qu'en face de ça, moi j'ai vraiment l'impression qu'on crée, on imagine, on mouline, on écrit, on invente, mais face à un État raciste, est-ce qu'on n'est pas finalement une petite couverture, mais qui ne sert à rien finalement, puisque, comme vous le disiez, Monsieur Simon, moi je suis pas pessimiste, mais on lutte, on met en place des choses, mais finalement c'est un peu hein, comme le rocher de Sisyphe qui s'écroule à chaque fois. Voilà. Comment vous situez par rapport à ça, par rapport aussi à la défenseure des droits, je voulais savoir aussi la quantité de 39-28 que vous recevez, en fait, de coups de fil que vous recevez, justement par rapport à précisément le racisme. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui sont persuadées que ça ne sert absolument à rien de porter plainte quand, par exemple, on arrive dans un commissariat, sachant qu'il y a des personnes au commissariat, donc un accueil qui est sexiste et raciste. Finalement, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller là-bas? Merci.
Bonsoir, merci beaucoup pour ce temps d'échange et pour les différents éléments que vous avez présentés, mais aussi pour les actions que vous menez. Aujourd'hui, vous avez présenté principalement des mesures qui sont faites un petit peu en réaction, puisqu'on parle de lutte et de lutte sur des choses qui se voient, en fait, sur des discriminations à l'école, sur des discriminations à l'embauche, sur des personnes qui vont vous téléphoner pour faire valoir leurs droits. Et j'ai l'impression, et c'était aussi sous-jacent dans vos propos, qu'en fait, il y a quand même une nécessaire prise de conscience collective et que sinon, on va toujours faire en réaction, sans dire que vous ne faites pas suffisamment, évidemment, parce que vous faites avec ce que vous pouvez. Mais Patrick Simon, vous le disiez tout à l'heure, la première chose que les personnes demandent, c'est le respect et c'est la dignité. Et en France, on a vraiment construit nos politiques publiques simplement autour de la participation à la vie culturelle, quand on parle d'intégration et de lutter contre les discriminations, etc. Et moi, en ce sens, je travaille sur la sensibilisation aux droits culturels et je me demandais quelle place ça avait dans vos actions concrètement sur le terrain, quelle connaissance vous en avez, mais les gens autour de vous peuvent en avoir aussi, et qu'est-ce que vous en faites finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui a sa place aujourd'hui sur le terrain concrètement et dans vos actions? Voilà, merci encore.
Une dernière encore et après vous répondez. Ça vous va?
Alors moi j'ai un peu peur de parler à l'oral, mais c'est pas grave. Déjà merci pour la conférence et aussi juste j'aimerais revenir sur un truc, c'est que la fac elle a jamais été aussi dépolitisée que maintenant. Du coup même si on bouillonne et tout, c'est un peu compliqué de se mobiliser en ce moment. Voilà. Ensuite je vois que la soirée débat elle s'appelle discrimination, le poids des origines. Et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des discriminations, j'ai l'impression que c'est un sujet qu'on redécouvre tout le temps et qu'il y a toujours les mêmes thématiques qui reviennent, l'école, le handicap, tout ça, alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'on sait qu'elles existent. Et en fait, je trouve qu'aussi, il y a un problème au niveau du terme « origine », parce que comme le colorblindness en France vient très bien cacher la question des races, le mot « origine » aussi, il y a Véronique de Ruder qui a théorisé ça en disant que le terme origine était un euphémisme de la race, parce qu'on ne va pas demander à un blanc c'est quoi ses origines. Enfin, c'est un peu. Pardon, désolé comment je parle, mais voilà. Du coup, voilà, j'ai écrit d'autres trucs. Et aussi, il y a un peu le sentiment que en Europe on est universaliste, mais parce que on a cette manière de se dire qu'on va vers un progrès économique, scientifique, mais aussi idéologique, mais tout en voulant rassembler tout un groupe de personnes sous des normes de qu'est-ce que c'est le progrès. Du coup, en fait, on va estimer que la laïcité va être un progrès, mais en fait, elle va exclure toute une partie de personnes en fait qui ont aussi le droit de pratiquer leur culte tranquillement. Voilà. Et je voulais redire un autre truc, ce que vous aviez dit sur pourquoi on n'apprend pas à l'école le post-colonialisme, en fait, ou le colonialisme, ce qui est la base de toute solution pour régler le racisme, en fait. Enfin, moi, je pense comme ça. Dans le monde de la recherche scientifique, en tout cas à la fac au Mirail, c'est très, 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 très difficile. Moi, je suis en sociologie, je fais ma deuxième L3. Mais j'avais une très bonne note. Mais du coup, c'est très difficile de parler de postcolonialisme à la fac. Et en fait, on s'est rendu compte avec des amis que c'était beaucoup une décision en fait de la part de certains corps enseignants en fait qui excluaient volontairement d'autres enseignants qui voudraient parler de colonialisme en fait, qui c'est super important. Et voilà. Du coup, moi, je m'inquiète énormément pour le monde de la recherche actuellement. Voilà, j'ai fini.
Bonjour, merci pour ces présentations. J'espère que je n'ai pas raté un épisode parce que je n'ai pas entendu parler de discrimination par rapport à un critère un peu particulier qui a trait au contexte géopolitique. Alors, je suis obligée un peu de me dévoiler. Moi, je suis française de profession juridique. Installée en France depuis bientôt 40 ans, originaire de Kiev, Ukraine, de langue maternelle russe, donc vivant un peu un cauchemar à distance, quoi, parce que ce sont des gens de ma famille qui sont tués de manière gravissime et en détruisant au passage le territoire de l'Ukraine, où je ne me sens plus chez moi, puisque maintenant tout ce qui est russe est détesté et honni. Et ne souhaitant pas rentrer en Russie pour autant, à cause de limitation des droits et une certaine hypocrisie aussi. Donc je me retrouve dans un cas, et justement j'ai essayé de saisir un défenseur des droits ici à Toulouse, mais je ne veux pas être offensante, mais enfin les défenseurs de droits, j'en ai saisi un paquet, quoi, j'ai jamais rien obtenu par un défenseur des droits, excusez-moi, même en Alsace, à Paris, enfin je pense qu'ils ont un dossier comme ça... je ne sais pas ce qui se passe très bien dans ce dossier-là. Et donc à Toulouse, j'ai essayé parce que je suis venue en raison de soins de santé dont j'ai besoin parce que, figurez-vous, ça paraît incroyable, ça fait plus de 11 ans que je ne suis pas relogée en France. Donc j'ai dû me pincer, j'ai vérifié, j'ai pas de casier judiciaire, etc. Enfin, je comprends pas très bien à quoi on joue. Donc je voudrais juste souligner que c'est pas parce qu'on est blanche, qu'on vit pas des choses très éprouvantes. Donc depuis plus de 11 ans, j'ai vécu avec toutes sortes de communautés. Et bon, ça va pas plaire, mais j'ai aussi subi d'autres formes de racisme. Il y a aussi le racisme anti-blanc, il y a aussi l'inimitié intercommunautaire, et pas forcément parce que je suis blanche et cultivée et diplômée, mais aussi parce que les communautés entre elles ne s'apprécient pas, quoi. Là, récemment, je me suis pris des vents des Géorgiens dans une église russe. Enfin, c'est-à-dire que là, je cumule tous les handicaps, y compris le handicap de santé. Ben, écoutez, demain, je suis de nouveau à la rue parce que le vallon qui est rattaché à l'hôpital ne peut plus m'héberger, il manque un papier de l'hôpital, enfin, non mais c'est un cafarnaum pas possible, donc il y a des situations ubuesques, et je me demande si on ne devrait pas inclure dans la liste des discriminations les discriminations implicites à cause du contexte géopolitique. Je pense que je dois avoir une jolie fiche quelque part au ORG, parce que je peux parler couramment le russe, l'ukrainien, l'anglais, je peux foutre mon bordel, je peux communiquer, témoigner, ça peut être démultiplié ou utilisé. Par ailleurs, j'ai pas mal de connexions, mais au niveau de l'État, il y a absolument aucun intérêt pour des cas individuels, quoi. Et bon, moi, j'en suis au stade contentieux contre l'État, mais aux surprises, les avocats ne prennent pas le dossier malgré l'aide juridictionnelle totale. Donc, je salue Monsieur Macron qui est au courant du dossier. Franchement, on en prend tous pour notre grade. Voilà. Blanc, noir, jaune, vert. Cultivé, pas cultivé. Raciste, pas raciste. Enfin, c'est la totale. Il y a un bordel monstrueux dans le chapitre discrimination. Je vous remercie pour le thème. Merci.
Même audio. Une mémoire sonore.
Comment est-ce qu'on fait? Je peux commencer.
Claire, allez-y, allez-y.
Il veut que je commence.
Je voulais qu'il commence. Non, mais d'abord, je vais pas réagir à l'ensemble de ce que vous avez tous et toutes dit. Vous avez dit plein de choses intéressantes. Vous rejoignez quand même à la fois ce que chacun a pu dire sur le fait qu'on a quand même le sentiment qu'on n'avance pas. Voilà. Je pense qu'on se retrouve sur ce point-là. Il y a eu des moments plus florissants dans la lutte contre les discriminations. On est à un moment où on stagne, on a du mal à reconnaître. Moi, je vous redis, je partage complètement ce qu'a dit Patrick Simon tout à l'heure. Je trouve qu'on n'avance pas sur la question origine. Ça dit quelque chose, je suis d'accord, de notre histoire, de la façon dont on l'aborde. C'est quand même assez fascinant qu'on n'arrive pas à avancer plus sur ces questions-là, à reconnaître la réalité de ce qui se passe. On est, nous, en lien, parce que, évidemment, par nos réclamations, on ne voit pas tout, on ne voit pas toute l'ampleur des discriminations, et donc on a besoin de liens avec le monde associatif. On est en lien avec plus de 110 associations dans nos différents domaines de compétences, dans ce que nous, on appelle des comités d'entente, qu'on réunit deux fois par an dans tous les domaines, et donc dans des discriminations liées à l'origine, l'orientation sexuelle, le fait d'être une femme, voilà, sur les droits des enfants. Donc on échange beaucoup là-dessus pour que les associations nous fassent remonter des difficultés que nous ne voyons pas forcément. Oui, je peux entendre un côté du « mais finalement, à quoi ça sert tout ça, puisqu'on n'avance pas ?» Nous, au quotidien, on arrive quand même à résoudre des situations petit à petit, à la fois ou par la médiation, ou par des observations que nous faisons devant les tribunaux, ou en alertant. Mais je partage votre inquiétude sur « on n'avance pas assez vite, c'est une réalité, et on se donne pas suffisamment de moyens pour lutter réellement contre les discriminations. » Juste sur la question, la façon dont vous avez abordé la question de race, on fait partie de la même race. Je n'ai tous. Et donc ce mot-là, on utilise le mot raciste, c'est pas de doute, mais vraiment, je pense que nous, on arrive à aborder ces questions-là par la couleur, par le fait d'être perçu comme non-blanc, par toutes ces questions-là. Mais je suis toujours craintive quand on aborde ces questions-là. On fait partie d'une même société. Mais je pense pas que c'est ce que vous ayez voulu dire. Donc je dis juste le mot me fait voilà. Je trouve que. Et aussi, le dernier point, c'est que je trouve qu'on est face à une jeunesse que je trouve, moi, très intéressante parce que beaucoup plus consciente de ces questions-là que ce qu'était ma génération. Et moi, ça me donne espoir qu'on bouge parce que je vous sens beaucoup plus mobilisée, beaucoup plus conscient et consciente de ce qui se passe, de ce qui se joue et de ce qui ne bouge pas. Donc, cette partie-là, et vous êtes plus engagée, donc cette partie-là me donne quand même espoir malgré le fait qu'on ne progresse pas.
Je crois que ça, c'est vraiment une dimension qui est importante. C'est-à-dire que la question qui se pose autour de cette structure raciste et de discrimination dans la société française, elle est très en prise avec les transformations historiques et démographiques dans lesquelles on est placé. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que on est sorti de la période coloniale dans les années 50-60 et que pour la première fois de son histoire, on est dans une société qui est authentiquement multiraciale, multiethnique, beaucoup plus qu'elle ne l'a jamais été. Et tout ce qui s'est construit dans le cadre colonial nous revient en boomerang, et vous l'avez assez bien dit toutes et tous. Donc ça, c'est la raison pour laquelle c'est compliqué à affronter. C'est la raison pour laquelle ça fait jouer des ressorts anciens. Quand vous dites ça vient d'où la discrimination, oui, c'est la mise en œuvre de stéréotypes et de préjugés qui ont été forgés dans 500 ans d'histoire d'expansion européenne dans le monde. Donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, et c'est pour ça que ça va prendre très longtemps à changer. On s'attend pas à ce que le patriarcat disparaisse demain, et on va pas s'attendre à ce que le racisme et les discriminations disparaissent demain non plus, parce que elles sont inscrites dans la longue durée, et c'est pour ça que ça veut pas dire qu'il faut se décourager, et ça serait un idiot de s'attendre à avoir des résultats dans le mois qui vient, ou dans les 2 ans, dans les 10 ans. Simplement, les directions vers lesquelles on veut aller, la façon de prendre conscience de quels sont les mécanismes et comment s'organise la société autour de ces mécanismes, il me semble qu'il y a des réponses qui vont un peu dans le sens inverse. Et c'est ça qui me rend plus négatif, c'est-à-dire on a du mal, alors qu'on pensait que dans les années 90, on avait pris grossièrement à peu près conscience de ce dont il s'agissait et des responsabilités et de la façon dont on pouvait créer l'inclusion avec la diversité collective dans laquelle on était situé. Les montées des populismes là en Europe et tous les pays européens traversent à peu près la même phase, donc on n'est pas très spécifique en France, hein, et avec des réponses qui sont assez similaires la plupart du temps. Et c'est vraiment une séquence historique dans laquelle on est placé, et elle est assez terrifiante pour partie, parce qu'il y a des réponses qui sont lourdes de danger. Mais en fait, ce qui est en jeu, c'est la capacité aujourd'hui d'incorporer dans notre représentation collective cette diversité en restituant des égalités de traitement qui sont pas là, quoi, en fait. Et ça, c'est la difficulté. Voilà, donc je pense que c'est pas mal de partager le constat, et ce que vous avez dit montre qu'il y a quand même une prise de conscience. Deuxièmement, c'est vrai, comme le Clairédon l'a dit, la jeunesse, en tout cas les jeunes générations ont pas les mécanismes qu'ont incorporé celles plus âgées dont la mienne, donc il s'est passé des choses, et là, de ce point de vue-là, c'est plutôt positif du point de vue des perspectives. La troisième chose, c'est les politiques elles-mêmes. Et on a fait référence aux appels à projets et le financement des associations. Moi, il me semble qu'on a un problème dans le financement des associations. Nathanaël doit connaître ça beaucoup mieux que moi. Il y a eu des retraits, la politique de la ville qui faisait un peu la fonction de diffusion d'un certain nombre de soutien à des actions et à des activités qui contribuaient à réduire les discriminations. Cette politique de la ville a été fortement modifiée, les financements ont complètement déserté, et donc un grand tissu associatif a disparu, et c'est lui qui jouait cette fonction capitale de construction d'un ensemble commun, en fait, d'une cohésion collective. Eh bien, ça, c'est quand même quelque chose d'assez concret, c'est-à-dire c'est des politiques qui sont destinés à permettre les expressions et la construction de cette vie commune. Et celle-là, elle a quand même globalement réduit, elle a été rebasculée sur d'autres enjeux, en particulier la lutte contre la radicalisation, qui a pris une grande partie des financements qui étaient avant sur d'autres structures. Donc on a vécu ça. Et faut devenir un peu matérialiste, hein, faut regarder où va l'argent, pour faire quoi, et quand on veut faire une politique de lutte contre les discriminations, faut y mettre les moyens. C'est pas que du discours, ce qui est important, c'est pas que la prise de conscience collective qui est importante, mais c'est aussi des moyens qui sont donnés aux associations, aux institutions qui sont en charge de la lutte contre les discriminations. Et bon, je sais pas, je vais pas parler argent avec les raisons, mais le défenseur des droits est pas du tout financé à la hauteur des besoins qui devraient être liés à ses missions.
Si, on peut parler argent. Non, mais le budget de l'institution, d'abord, forte augmentation en 4 ans des réclamations, on est passé de 100 000 à 138 000, pas du tout une augmentation en parallèle. Et quand on se compare à nos homologues, justement, dans les pays anglo-saxons, mais on est les plus pauvres d'Europe. Enfin, mais je veux dire, quand on se compare même avec la Grèce, notre budget est 70% inférieur à celui des Grecs dans tous nos domaines confondus. Donc oui, on peut en parler, ça dit quelque chose. Voilà, c'est une autorité qui est inscrite dans la Constitution, mais on lui donne pas suffisamment de moyens aussi pour fonctionner. Je voudrais ajouter juste un mot sur la question. Je trouve que c'est très bien qu'on ait parlé aujourd'hui de l'anti-tsiganisme. Je suis impressionnée, moi, de ce qui se passe sur ces questions-là. Et alors, s'il y a un domaine où on n'avance pas, c'est quand même celui-là. Et je suis effrayée aussi de propos qui peuvent être tenus là-dessus. La question du financement des associations me paraît cruciale aussi. Et une petite alerte qui m'intéresserait d'avoir votre avis, mais on peut le faire de façon informelle après, sur la question du contrat d'engagement républicain, qui est un des moyens, quand vous dites des choses qui plaisent pas dans les associations, de supprimer un certain nombre de financements. On commence à être alerté. Et voilà, oui, on a quelques inquiétudes de ce côté-là.
Bonsoir. Moi, c'est pour rebondir à la dernière intervention qui a été faite dans le public, pardon. Et c'est pour avoir votre avis sur la question, parce que mon avis, je ne vais pas le développer ici. Mais en tant que vous êtes chercheur, cofondateur d'associations, anthropologue, journaliste, vous pensez quoi du racisme anti-blanc? Voilà, merci.
Grosse question. Quelle heure est-il? Une dernière question ici.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre présence ici ce soir. Moi, je suis enseignante et je connais bien Rencontre Homme Nous puisqu'on travaille ensemble. Et je suis très contente qu'on se revoie encore ce soir. J'ai plusieurs petites choses à dire. La première, c'est que la fermeture du camp, elle a été organisée par l'institution, à savoir le maire de quartier qui a décidé de fermer le camp. Dans une commune proche, c'est un camp qui accueille une communauté gitane qui vient de fermer. Il n'y a eu aucun article dans la presse. Donc moi, je vis ça parce que j'ai choisi d'avoir un... J'ai la chance d'avoir pu avoir un nouveau poste d'enseignante, à savoir un poste UPE2A. Donc moi, j'enseigne le français aux enfants qui ne le parlent pas et qui arrivent d'autres pays, donc qui s'appellent des EANA, des enfants allophones nouvellement arrivés. Mon poste s'appelle UPE2A, donc c'est une unité pédagogique pour les enfants allophones nouvellement arrivés. Je le dis parce que il y a 50 postes sur la Haute-Garonne et pour moi c'est positif. On va parler de discrimination positive. On accueille ces enfants. Il y a des choses qui sont organisées pour accueillir ces enfants. Il y a un autre poste qui accueille les enfants qu'on appelle EFIV pour les familles itinérantes et du voyage. Donc ça s'adresse aux familles d'origine gitane notamment. Les Roms, on m'a expliqué que les Roms, c'était les trous dans la raquette. Moi, dans ma pratique quotidienne, autour de moi, il y a 50 Roms, donc ça fait beaucoup de trous dans la raquette quand même. Voilà. Ensuite, je voulais parler... Des enfants qui sont dans cette situation-là, quand ils arrivent en classe, malheureusement, pour beaucoup d'enseignants, c'est difficile de les prendre en compte parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est horrible ce que je vais dire parce que je vais parler de mes collègues, mais tant pis, je le dis, ils sont au fond de la classe. Et il faut du temps et il faut un travail vraiment de confiance avec les enseignants pour que petit à petit, ils reviennent devant la classe, devant le tableau, devant l'enseignant. Je vais conclure. Je voulais dire aussi que j'ai eu des enfants, des élèves qui étaient ukrainiens et que la situation de l'accueil des Ukrainiens, elle a été différente. Donc c'est un sujet aussi, donc en fonction de l'origine de l'arrivée des enfants, le traitement a été différent. Et il y a beaucoup d'enseignants qui se sont posé la question quand même de ce traitement différent. Et je termine avec une petite expérience personnelle aussi.
Différent au sens de positif.
Alors là c'était positif, c'était positif, mais... Voilà, cet aspect positif devrait être positif aussi pour les autres. Et je termine. Moi, je suis d'origine française de plusieurs régions de France, mais je suis née en région parisienne. Et quand j'étais petite, mes parents déménageaient en Béarn. Et j'ai été traitée d'étrangère parce que j'étais parisienne et je parlais pas la langue locale. Voilà. Merci pour votre attention.
J'aime bien sur la question. Donc, alors sur la question de les allophones, hein, bon, j'ai suivi des mémoires de travail hein, sur ces questions-là pour les élèves et de voir un peu leur comment ils s'insèrent dans la société, comment ils s'insèrent dans l'école. Donc je vous rejoins sur les difficultés parfois pour les enseignants parce que les enseignants ont cette difficulté. D'enseigner auprès d'élèves qui ne maîtrisent pas la langue française. Donc, ils ont cette appréhension. Donc, après, certains essaient de trouver des solutions et d'autres, ben, ils, c'est plutôt vous en tant qu'enseignante de classe UP2A qui fait tout ce travail-là. Donc il y a des enseignants qui ont cette appréhension, mais qui essaient de trouver des solutions. D'autres qui se mettent un peu derrière, et parfois ces classes sont un peu mal vues aussi. Tout dépend de la population présente, d'où viennent les jeunes, parce que c'est quelque chose qui tourne. C'est pas, et l'objectif, c'est de pouvoir permettre à ces jeunes d'aller dans la classe dit ordinaire, de rejoindre la classe dit ordinaire. Ça, c'est pour là. Pour la question du racisme anti-blanc, vous avez vu comment je me suis présentée. Je suis auvergnate, donc déjà, parce que je me suis construite comme ça en tant qu'auvergnate. Il y a des termes qui, pour moi, dans mon approche, quand j'ai les étudiants en face de moi, quand je fais le cours, par exemple, de femmes et Europe, la question, par exemple, de femmes racisées est questionnée, en tous les cas, dans le cadre de ce cours-là. Et je leur dis à mes étudiants que moi, je n'aime pas ce terme-là. En tout cas, je ne l'évoque pas dans mon approche, ce terme-là. Et donc, j'essaie de leur expliquer, en tous les cas, le pourquoi. Et en même temps, parce que c'est aussi par rapport à une histoire familiale. Moi, ma mère, ma mère, elle n'est pas là, mais si vous voyez ma mère, yeux verts métallisés, peau laiteuse. Quand j'étais à côté d'elle, on me dit « c'est pas ta fille, ça peut pas être ta fille ». Donc moi, j'ai une mère qui, pourtant, on a la même origine, elle est d'origine, elle vient d'Algérie, donc elle est d'origine algérienne, donc avec cette peau laiteuse et tout. Et à chaque fois que, même en France, on la prend pas pour une... Donc ma mère est complètement blanche de visage, alors que mon père était plutôt métisse, cheveux un peu crépus. Donc déjà, moi, dans ma propre famille, j'ai cette histoire de dire « j'ai une mère blanche ». Alors ma mère va peut-être dire « oui, tu fais du racisme anti-blanc ». Non, bon, je souris quand je dis ça, mais j'ai une mère qui a une peau claire. Donc dans ma fratrie, on est tous différents de point de vue de la couleur, de point de vue des cheveux, de point de vue de tout ça. Et pourtant, on a deux parents qui sont nés dans le même pays. Donc c'est déjà, moi, c'est des questions même personnelles et intimes que je me questionne. Donc ça, c'était sur la question même de la définition. Donc ma construction, elle s'est faite sur un territoire, sur mes enjeux dans ce territoire et de comment je me construis. Et mes filles, qui aujourd'hui sont, j'en ai une de 18 ans, une de 15 ans, elles sont, elles, toulousaines. Donc je dis bien, parce que souvent, à l'école, on les questionne sur leur origine, bien sûr, souvent, et je leur dis bien, il y a l'école, il y a l'espace de l'école. Donc nous, la laïcité, on la vit complètement, mais à différents niveaux. C'est-à-dire, il y a ce qui est dit à l'école, il y a ce qui se vit à l'école, et ce qui se vit à la maison, à l'école, parce qu'il faut amener l'autre aussi par la posture à se questionner, à s'interroger. C'est pour ça que je me suis nommée auvergnate. Et donc mes filles, elles sont toulousaines. Voilà. Et leur père, il est lozérien, même s'il a une origine. Voilà. Donc là, c'est... Et donc, parfois, c'est toujours... Ah oui, mais quand même, tu as un prénom comme ça, tu as un nom de famille. Non, mais moi, je suis toulousaine, je suis née à Toulouse. Donc j'apprends à mes filles cette question-là. Donc la question de anti-blanc, moi, je parlerai plus de discrimination. La question du racisme anti-blanc, moi, ça me dit rien. Moi, je parlerai plutôt de discrimination, parce que à un moment donné, quand ça s'est mis en place, c'est plutôt la question du racisme, la question des races, s'est mis en place quand on voit du point de vue de l'histoire, a été posée par une population qui est européenne et qui était une population qui était la plupart un peu blanche par rapport à son histoire. Donc, pour moi, c'est plutôt des discriminations, quelles que soient les discriminations, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, nous, en France, la question des races, on ne l'aborde pas, on a les critères, on a les 25 critères de discrimination. Dans les 25 critères, apparaît la race parce que c'est quelque chose qui est européen. Nous, en France, on n'aborde pas du point de vue de la race, tout simplement parce que, bon, les statistiques ethniques, on n'a pas le droit d'en faire. Encore ? On en fait un peu ? Voilà, on en fait. Mais normalement, on n'a pas le droit d'en faire parce qu'on est...
Dans certaines conditions.
Voilà, on en fait. Mais bon, c'est bien. C'est pour ça qu'anthropologue, c'est facile parce qu'on fait du qualitatif. Donc là, on peut demander les trajectoires familiales, les histoires et tout ça. Mais bon, pendant très longtemps, on n'avait pas trop le droit d'en faire. Moi, je me rappelle celle qui avait fait l'ouvrage « Faire France ». Les premières fois en tant que démographe, elle avait utilisé des statistiques ethniques. Donc... C'est un peu difficile, et donc on a aussi cette... Il y a aussi en France, j'ai vu qu'on en avait très peu parlé, on parle du modèle européen, mais dans les pays anglo-saxons, que ce soit le Canada, que ce soit l'Angleterre, on est face à des communautés. On est face à des communautés qui sont reconnues, qui sont acceptées, et qui vivent dans un territoire avec les différents niveaux sociaux. Là, on n'en parle pas ici en France. En France, on n'est pas face à des communautés, on est plutôt
face à des territoires où on a des gens précarisés dans certains territoires et dans d'autres, ils ne le sont pas. Donc on est dans des différences, voilà. Donc de fait, c'est plus difficile de pouvoir toucher du doigt toutes ces formes de discrimination. Et ça, donc c'est toute la difficulté que l'on a aussi dans le cadre de notre travail. Donc c'est pour ça que bon, la question de race, on ne l'aborde pas. Ici, en tout cas, pas de la même façon. On peut la questionner du point de vue de la recherche, hein, de voir ce qu'il en est, en comparaison avec les différents travaux, mais elle n'est pas pensée de la même manière. Donc moi, voilà, ma réponse sur le racisme anti-blanc, pour moi, c'est une discrimination. Je la mettrai du ressort de la discrimination sur... voilà. C'est une discrimination que peut avoir une personne. Voilà ma réponse.
Je suis désolée, on manque vraiment de temps. On a beaucoup dépassé. Je voulais peut-être juste laisser Nathanaël intervenir une dernière fois pour que tout le monde ait pu s'exprimer.
Oui, je vais essayer d'être positif. Non, moi, j'étais juste un peu gêné par ce sentiment de discrimination parce que je pense qu'on ferait un retour en arrière. Je pense que si la personne se sent discriminée, c'est qu'elle est discriminée, tout simplement, et qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et qu'on a beaucoup parlé de jeunesse dans le changement. Et moi, ça rejoint la question sur les droits culturels de madame, que le changement, il y en a aussi des personnes concernées. Et que plus on va renforcer leur pouvoir d'agir, leur participation, plus elles seront à même de se défendre, de revendiquer leurs droits. Et c'est de là que viendra le changement. Je pense qu'il y a eu plein d'exemples dans l'histoire qui l'a montré, que l'obtention de nouveaux droits s'est faite par les premiers concernés. Donc c'est une voie que les associations ont commencé à ouvrir. On est encore très loin de... Y compris nous, hein, on n'est pas un modèle non plus. Mais de ce qu'on peut faire. Et je pense que le changement viendra aussi de là. Et surtout de là. Voilà.
Merci pour ce mot de la fin. Merci à tout le monde pour votre attention et vos questions qui ont complété celles qui manquaient, que je n'avais pas eu le temps de poser. Donc, merci beaucoup. Et peut-être qu'on pourra continuer un petit peu à discuter à l'extérieur, j'espère. Et puis, merci à mes intervenants pour vos apports très riches.
Même audio. Une mémoire sonore.